10h, 11h, épicez tout sur RCN, avec la communauté de pratique Épilepsie Handicap Nord-Est.
Et bonjour, bienvenue, bonne année, meilleurs vœux, nous sommes dans l'émission Épicez tout, l'émission qui, chaque mois, parle des épilepsies, puisqu'on a découvert il y a un mois qu'il n'y avait pas une épilepsie, mais des épilepsies, et on va continuer ce mois-ci d'en parler, et on va parler aujourd'hui d'un sujet important, la crise d'épilepsie, et pourquoi est-ce qu'on en a peur? Pour m'accompagner dans cette émission, Céline et Aurore, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Vous faites partie de l'équipe Relais Handicap Rare, vous êtes aussi animatrice à la communauté de pratique épilepsie et handicap, bienvenue à toutes les deux. Ravi de vous avoir à mes côtés. Nous accompagnera dans cette émission également le docteur Miguel. Bonjour docteur Miguel.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur à l'OHS à Flavigny, au centre de santé et au COSE, je dis pas de bêtises, et également à l'hôpital d'Épinal.
Exactement.
Et vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est une crise d'épilepsie. Avec nous également Yanis. Bonjour Yanis.
Bonjour.
Yanis, alors vous allez être notre témoin aujourd'hui.
Exactement.
Vous souffrez d'épilepsie.
Exactement.
Et vous allez nous raconter, vous, vos crises d'épilepsie, comment ça se passe et comment ça se passe avec les gens.
Tout à fait.
C'est ça qui va nous intéresser ce matin. On aura Philippe dans quelques instants au téléphone avec nous également, qui est membre de l'association Accueil Épilepsie Grand Est et parent d'un jeune épileptique. C'est donc aujourd'hui que nous allons parler d'un sujet important. C'est souvent quand on parle d'épilepsie, ce qui vient dans l'esprit des gens, c'est la crise, les spasmes, les yeux qui se retournent, la bave et tout ce qui peut s'en suivre. On va voir ensemble dans un instant si c'est ça, une crise d'épilepsie, ce qui provoque cette crise d'épilepsie. Mais avant, on a voulu savoir comment les gens dans la rue vivaient une crise d'épilepsie, s'ils l'avaient déjà vécu, et qu'est-ce que ça a provoqué chez eux, est-ce que ça leur faisait peur ou pas. On va découvrir tout de suite ce micro-trottoir.
Ressenti qu'il fallait éviter que les autres fassent des gestes inutiles, vu que dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Juste patienter, éviter les blessures supplémentaires, etc.
Bah, je pense bizarre, quoi. Ouais. Parce que bon, si on voit quelqu'un qui commence à convulser par terre, je sais pas, enfin les yeux révulsés, etc. La première chose qu'on irait, c'est voir ce qu'a la personne, quoi. Mmh. Mais sinon, à part ça, essayer de faire des gestes de premier secours, mais lesquels, voilà, quoi.
Très impressionnant, sans doute. Mais j'ai vu sur Internet qu'on pouvait mettre sur la position latérale. Et puis voilà, je continue aussi à me former aux gestes de premier secours.
Oui, c'était quand j'étais au collège, oui. Je crois, je sais plus quelle année. J'ai une copine qui avait fait une crise d'épilepsie, mais c'était pas, en fait, elle n'est pas tombée ni rien,
okay.
Parce que elle avait un peu les yeux qui ont roulé et tout ça. Et du coup, sa sœur, elle a dû la supporter tout ça pour rentrer. Du coup, en gros, c'était devant un passage piéton, uh-huh. Et du coup, elle était là sans être là. Et du coup, sa sœur, elle l'a pris. Elle m'a dit que c'est une crise d'épilepsie et que du coup, voilà.
Mais moi, j'ai toujours un sucre dans ma poche. Si encore elle arrive, je lui donne le sucre.
Ah, carrément.
Ouais.
Pendant la crise.
Voilà. Okay. Et comme ça, elle se réveille. Si elle tombe, le manque de sucre, on peut le sauver tout de suite.
Je ne savais pas quoi faire. J'étais toute jeune. Il y a un monsieur qui est tombé à côté de moi. J'ai cru qu'il partait, qu'il mourait. Je me suis affolée, j'ai appelé au secours. Et donc, on m'a dit, après, il y avait la langue, il bavait, tout ça. J'étais choquée. Puis après, bon, il y a du monde qui est venu. On m'a dit, ne faut pas s'inquiéter, c'est un monsieur qui a l'habitude de faire des crises.
Bah, je ne saurais pas comment faire.
D'accord. Et ça vous ferait quel sentiment de peur?
Un peu de peur, puisque quand on ne sait pas comment réagir, on prend peur, c'est sûr. J'appellerai les secours.
Essayer de faire en sorte qu'il n'avale pas sa langue, que la personne n'avale pas sa langue, je ne sais pas.
Bah, après tout ce qu'on entend, on voit, ou les formations de secours réseau travaillent, bah, éventuellement, bah, tenir la tête, éviter que la langue soit avalée ou mordue, et puis peut-être mettre en PLS, et puis surtout appeler le 15.
Et ça peut être... Oh, je sais pas, la peur, ouais. Ouais, la peur, et c'est tout. Parce que bah, du coup, j'ai jamais eu l'occasion d'apprendre à gérer ce genre de crise. Donc c'est vrai que du coup, la peur, c'est la première des réactions que j'aurais, quoi.
Ouais. Okay.
Voilà. Okay.
Oui, j'ai déjà assisté à une crise d'épilepsie.
Ça nous intéresse.
Lorsque j'étais au collège, dans la classe, il y avait une fille qui avait fait une crise d'épilepsie. Donc c'était assez impressionnant. Moi, personnellement, je ne savais pas comment réagir. Après, il y a des personnes qui sont attitrées pour pouvoir intervenir, en tout cas là c'était le cas, à l'école. C'était assez surprenant en voyant ça, je l'ai su qu'après par les professionnels de santé.
Oui, et j'ai chialé, alors que c'était quelqu'un que je connaissais pas.
Ouais. Et tout d'un coup le type tombe,
oui.
Se met à trembler, à devenir, je pensais que c'était des mythos, moi quand les gens disent « Ah, il est devenu vert et tout », mais c'est vrai, ça existe, il est devenu vert, bleu, violet, blanc, jaune, toutes les couleurs improbables, il était immobile, sa femme était à côté, elle hurlait « Ah !» pris son traitement. Donc moi à côté, j'appelle les pompiers. J'essaye de faire mon maximum pour rester professionnelle. Donc je dis, le monsieur devant moi est tombé, il a fait plein de couleurs. Et je pense que sa dame m'a dit qu'il faisait une crise d'épilepsie. Et du coup, sa dame était pas bien, elle me tenait le bras, donc je me suis mise à pleurer. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle paniquait complet et à la fois qu'elle savait que c'était pas bien grave. C'était un peu des deux. Et puis bah après, les pompiers sont arrivés.
Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Beaucoup de peur et de l'impuissance. Et puis genre... mais qu'est-ce que tu fais? En plus, on nous met tout le temps dans la tête, il va avaler sa langue, il va je sais pas quoi. Du coup, j'étais là, oh, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut mettre en PLS? Est-ce qu'il faut faire... bon.
On nous met beaucoup de choses dans la tête, hein. Il va avaler sa langue, etc. On va justement y revenir, hein. On va expliquer un petit peu ce qu'est une crise d'épilepsie, peut-être pour nous permettre de mieux comprendre ce que c'est aussi, pour mieux l'anticiper. On entend aussi qu'il y a beaucoup de peur, de larmes parfois, même des gens qui ont eu très très peur et qui se sont mis à pleurer. Aurore et Céline, c'est vous qui êtes allés faire le micro-trottoir, vous nous avez dit aussi, il y a assez peu de gens qui ont vu ou vécu de près une crise d'épilepsie.
Oui, effectivement, on était assez surprise de se rendre compte que finalement, assez peu de personnes, même très peu de personnes, ont pu être témoins d'une crise dans la rue ou même au cours de réunions familiales, finalement dans leur vie quotidienne. Alors voilà, moi j'avoue, ça m'a un peu interrogée au vu du nombre dont on parlait lors de la émission précédente.
On rappelle, hein, c'est la deuxième maladie neurologique la plus répandue en France et dans le monde.
Tout à fait.
Et ça représente, je ne sais plus, c'est pas loin d'un million de personnes, c'est ça ?
650 patients à peu près, ouais. Ça fait une fois et demie la population de Lyon intramuros par exemple.
Donc c'est quand même énorme, conséquent, effectivement. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a peut-être aussi des raisons, même médicales, qui expliquent qu'on ne les voit pas toujours, les crises.
Alors voilà, est-ce que les gens ne savent pas que c'est une crise ? Est-ce que les crises apparaissent assez peu lorsque la personne est active, dans la rue, dans un contexte un petit peu collectif ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a posé pas mal de questions.
On en reparlera évidemment dans un instant avec le docteur Miguel. Qui veut réagir sur ce qu'il vient d'entendre, docteur Miguel, peut-être ?
Je crois qu'il y a plusieurs choses qui ressortent de ce micro-trottoir. La peur et le fait que c'est quelque chose qui est impressionnant à vivre pour les témoins. Et puis aussi le fait qu'on on ne sait pas toujours comment réagir et qu'on peut se sentir impuissant. Les deux choses qui ressortent.
Oui, qui ont retenu votre attention sur ce micro-trottoir. Yanis ?
Je trouve que c'est très intéressant et aussi inquiétant de se rendre compte qu'en fait la plupart des personnes n'ont aucune connaissance des gestes de premier secours, même tout simplement, ils n'ont aucune connaissance de ça, donc il faudrait peut-être remettre en question, peut-être à l'école, apprendre ça, ça devrait même être obligatoire d'ailleurs, d'apprendre ça à l'école, parce que bon, quand on entend certaines personnes qui disent qu'ils ont paniqué et tout, c'est un peu inquiétant, bon, voilà.
On sait que ça arrive pour tous les secours, hein.
Oui, bien sûr.
Hein, des fois, quelqu'un qui se coupe un peu le bout du doigt, il y en a qui panique. J'en fais partie. Mais on reviendra tout à l'heure quand même et on essaiera de décrypter ensemble ce qu'il faut faire ou pas faire en cas de survenue d'une crise d'épilepsie de quelqu'un dans la rue. Qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire? Je vous poserai évidemment des questions aussi et vous me direz si oui ou non on doit le faire ou pas faire. Aurore, peut-être une dernière réaction sur le micro-trottoir?
Effectivement, il y a très peu de gens qui ont déjà assisté à une crise et qui même savent comment réagir et c'est ça qui est surprenant, surtout.
Et pour rebondir avec ce que disait Yanis, plusieurs nous ont dit mais on devrait effectivement être formé, voire c'est pas normal qu'on ne soit ni informé ni formé.
Ouais. Voilà. Je voudrais qu'on accueille Philippe qui est avec nous aussi au téléphone. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous.
On est ravi de vous accueillir également, vous êtes papa d'un jeune homme, si je ne dis pas de bêtises, qui souffre d'épilepsie.
Oui, c'est un monsieur maintenant qui a 40 ans.
Ah oui, c'est un jeune homme.
Qui souffre d'une épilepsie très extrêmement sévère, en effet.
Voilà, et vous aussi, j'imagine que le micro-trottoir vous a fait réagir.
Oui, bien sûr. Je trouve quand même, sur ce que j'ai entendu, qu'il y a beaucoup de gens, tout de même, qui savaient de quoi ils retournaient. Ce qui me frappe le plus, c'est que sur ce qu'on entend, c'est des gens qui disent « Ah, ben, c'était une personne qui faisait une crise d'épilepsie ». Alors, c'est pas du tout une chose évidente. C'est-à-dire, on peut assister à quelque chose sans savoir exactement ce que c'est. Je trouvais plutôt assez bien renseigné, finalement. Même une personne qui parlait de mettre en position latérale de sécurité, c'était pas une évidence non plus. Voilà, donc c'est la première réaction que j'ai. Mais pour revenir à ce qui a été dit précédemment sur le fait que on n'a pas vu beaucoup de crises dans la rue, quelqu'un disait cela, ou au milieu du travail, etc. et ça le docteur va le confirmer bien entendu, beaucoup, beaucoup, énormément de crises d'épilepsie, on ne les voit pas.
Oui, tout à fait. On va justement y revenir dans un petit instant, on va essayer de décrypter ce qu'est une crise d'épilepsie, plutôt ce que sont les crises d'épilepsie, parce que, docteur, vous n'allez pas me contredire en disant qu'il y a plusieurs formes de crise d'épilepsie.
Effectivement.
Et on va le décrypter dans quelques instants. Peut-être le temps pour nous d'écouter un premier morceau qui a été choisi par la sœur de Yanis.
Exactement.
Andrea Lazio de Simone a un titre super, moi j'adore, et ça s'appelle Immensita, et dans un instant, vous nous expliquerez Yanis pourquoi et comment vous avez choisi ce morceau, d'accord ? Vous restez sur RCN, on est ensemble jusqu'à 11h en direct dans l'émission Et puis c'est tout.
Sur RCN, et puis c'est tout.
On est ensemble en direct pour parler des épilepsies. Yanis, il y a quelques secondes, nous écoutions ce morceau d'Andrea Lazio de Simone.
Exactement.
J'espère que je l'ai bien prononcé. Vous l'avez choisi ce morceau avec votre sœur ?
Exactement.
Comment ? Pourquoi ?
Parce qu'on aime bien partager la musique ensemble, parce qu'elle vit l'épilepsie aussi avec moi. Je sais qu'elle en souffre aussi beaucoup et... Voilà, c'est un moment aussi de la faire participer à l'émission d'une manière originale, on va dire.
Comment s'appelle votre sœur ?
Mélina.
On l'embrasse fort ?
Exactement. Salut Mélina.
Voilà, le message est passé, ça me fait très plaisir. Il y a quelques secondes dans le micro-trottoir, on entendait que les gens réagissaient en disant qu'ils avaient peur quand ils voyaient des crises d'épilepsie. Peut-être c'est ce qu'on se disait hors antenne et même à l'antenne avant cette pause musicale, par méconnaissance. Et là je me tourne vers vous, docteur Miguel. J'ai envie de vous vous poser cette question très bateau, très sommaire pour commencer, mais c'est quoi une crise d'épilepsie ?
Oui, je crois qu'il faut commencer effectivement par poser le contexte. L'épilepsie, donc, on parle d'une maladie neurologique, une maladie du cerveau, qui va se caractériser par la survenue d'une crise d'épilepsie. Une crise d'épilepsie, je crois que si on veut être très simple pour bien se représenter les choses, il faut s'imaginer que c'est à un moment donné un petit groupe de neurones ou bien tous les neurones au niveau du cerveau qui vont se mettre à envoyer une décharge électrique anormal et que ça va finalement envoyer un message complètement erroné au reste du corps et ça va engendrer des manifestations cliniques, des signes physiques qui vont dépendre de la zone touchée, etc., mais qui vont constituer la crise d'épilepsie. Et on voit bien, si on le définit comme ça, que forcément, on a plusieurs types de crises d'épilepsie, puisque ça va dépendre
de la zone touchée
au niveau cérébral.
Alors, en général, quand on parle de crise d'épilepsie, ce qui revient le plus souvent, c'est les spasmes, c'est les yeux qui se retournent, c'est les gens qui se mettent à baver. C'est ça, une crise d'épilepsie ?
Oui, je crois que peut-être qu'on peut commencer par décrire la crise généralisée, c'est l'ensemble du cerveau qui se met à envoyer cette décharge anormale, parce que c'est finalement, je pense, la mieux connue, la plus médiatisée et peut-être aussi la plus impressionnante et celle pour laquelle c'est important de sensibiliser la population aux gestes qu'on peut faire si on est témoin d'une telle crise. Les passants le disent bien quand on les interroge que ça fait peur. Effectivement, ça fait peur. Et pourquoi ça fait peur ? Parce que déjà, les manifestations physiques qu'on va voir font peur.
Oui.
La crise généralisée, il faut se dire que c'est quelque chose qui survient de manière brutale. Ça veut dire que le patient, dans la grande majorité des cas, il ne va pas le sentir venir. Donc, il ne va pas avoir le temps de vous prévenir, il ne va pas avoir le temps de se mettre en sécurité, il va perdre conscience brutalement. Ça va engendrer une chute. Alors déjà, la chute en elle-même peut être impressionnante parce qu'il peut y avoir un traumatisme crânien, il peut être en train de faire une activité en hauteur, se blesser déjà en tombant. Et ensuite, les manifestations qu'on va voir, il y a d'abord une phase qu'on dit d'hypertonie. Il faut s'imaginer tous les muscles du corps qui sont contractés d'un coup, et ça, c'est impressionnant à voir. Puis des mouvements qui sont rythmiques, qui sont complètement involontaires, qu'on ne peut pas faire céder en faisant quelconque intervention, qui sont impressionnants et qui vont s'accompagner au niveau du visage de cette révulsion oculaire dont on a parlé. Il peut y avoir un bavage, il peut y avoir des changements de coloration de la peau. Il y a une personne qui le dit très bien. Il faut se dire que pendant qu'on fait une crise d'épilepsie, on n'est pas en train de respirer, donc le taux d'oxygène baisse et c'est ça qui va être responsable d'une coloration bleutée, peut-être d'abord autour de la bouche et puis si la crise se prolonge plus généralisée. Et ça, c'est des manifestations qui font peur. Je crois que les témoins en consultation nous le disent dans 100% des cas, la première crise qu'ils voient, ils nous disent « Mais docteur, j'ai cru qu'il était en train de mourir, j'ai cru qu'il partait. »
On l'a entendu d'ailleurs.
On l'a entendu dans le micro-trottoir. Forcément, c'est des signes cliniques qui nous renvoient à la mort et c'est une réaction logique d'avoir peur et de paniquer en premier lieu quand c'est la première fois qu'on est témoin de ça.
Ça dure longtemps, une crise d'épilepsie comme celle-là ?
Non, la grande majorité des crises va s'arrêter en quelques secondes à quelques minutes. C'est ce qui fait, on en parlera après dans la conduite à tenir, qu'une des choses importantes, ce sera de regarder la durée et finalement de laisser se dérouler la crise qui, le plus souvent, s'arrête seule, sans intervention médicale, sans qu'on ait rien à faire, finalement.
Et donc, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a un moment donné où ça devient plus inquiétant, il y a un moment donné où il faut faire quelque chose.
Il y a des signes de gravité, je pense, qui sont à reconnaître. Peut-être qu'on peut peut-être déjà situer ce qu'on fait quand on fait une crise, qu'est-ce qu'il faut faire. On regarde l'heure, c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire, parce qu'un des signes de gravité, c'est la durée de cette crise. On va appeler les secours, on va s'inquiéter si la crise, elle dure plus de 5 minutes. Donc si on n'a pas eu le réflexe de regarder l'heure, on a forcément une notion du temps qui est déformée on est témoin d'une crise pour la première fois. Donc je pense qu'on peut déjà dire ça, on regarde l'heure et finalement, on laisse se dérouler la crise, on ne peut rien faire pour la faire céder, donc on met le patient en sécurité, on écarte ce qui est autour de lui, les objets qui peuvent être dangereux. S'il y a, je ne sais pas moi, une cravate un peu serrée, on peut la desserrer, une paire de lunettes qui est en train de le blesser, on peut l'enlever. Et ensuite, on laisse se dérouler la crise, on ne cherche pas à entraver ses mouvements, ça peut être, on peut même le blesser ou se blesser si on cherche à faire ça. Et on attend que la crise se passe, la crise cède le plus souvent en quelques secondes à quelques minutes. Après, il y a une phase où les patients sont très somnolents, c'est ce qu'on appelle le post-critique, où là, on va les mettre en PLS, ça peut durer plusieurs dizaines de minutes, mais c'est plus la crise, c'est la phase de post-crise où le cerveau est ralenti et le temps que le patient récupère.
Est-ce que la crise est là... Alors, avant de vous poser cette question, j'ai quand même une autre question. Vous parlez de crise généralisée, ça veut dire qu'il y a d'autres crises ?
Oui.
C'est quoi ?
Il y a des crises qui peuvent toucher une seule partie du cerveau, où là, du coup, les manifestations vont être peut-être plus difficiles à reconnaître quand on n'a pas l'habitude, parce qu'elles vont dépendre de quelle zone est touchée. On peut avoir, des manifestations qui soient uniquement motrices, des mouvements involontaires, comme on peut avoir une perte de contact, ou on peut avoir des patients qui vont se mettre à rire, ou des patients qui vont avoir juste un trouble de la conscience, par exemple. Donc ça va dépendre de la zone du cerveau qui est touchée. C'est des crises qui sont plus difficiles à reconnaître, mais pour lesquelles la durée de la crise, finalement, va moins nous inquiéter. On a un petit peu plus le temps de réfléchir à ce qu'on a à faire. Il y a d'autres types de crises qu'on voit, par exemple, chez les enfants, comme les absences, qui sont des crises là généralisées, mais qui vont juste se traduire par un bug. On dit les enfants sont en train de faire quelque chose, et puis d'un coup, ils arrêtent leurs activités, il ne se passe rien, plus de son, plus d'image, et au bout de quelques secondes, ils vont reprendre. Ça, ce sont des crises qu'il faut peut-être apprendre à identifier, mais pour lesquelles, à part les signaler au docteur,
alors,
on n'a pas grand-chose à faire.
C'est un vrai sujet, ça. Est-ce que ça veut dire que quand on voit un enfant qui fait quelque... alors qu'il y a une absence, qui... souvent, on dit l'enfant est dans la lune, s'il est face de façon récurrente dans la lune, est-ce que ça veut dire que globalement, il faut peut-être en parler à son médecin ? Est-ce que ça peut être un élément qui permet de poser un diagnostic d'épilepsie ?
En tout cas, c'est une question, je pense, à se poser. Si c'est un enfant qui n'avait aucun trouble du comportement et qui, d'un coup, se met à avoir plein d'épisodes où on a l'impression qu'il n'est pas là, ou quand on l'appelle, il ne réagit pas tout de suite, ça peut être des absences. Quand on commence à faire des absences, en général, en l'absence de traitement, on en fait de plus en plus. Donc, ça a des répercussions sur l'école, tout simplement. Ouais, et ça, il faut penser que ça peut être une épilepsie, parce que dans ce cas-là, on fait un EEG, on confirme le diagnostic et on va mettre en place un traitement pour contrôler les absences et que l'enfant puisse retrouver son efficience à l'école et dans la vie, alors qu'on peut passer à côté des fois pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, si on ne pense pas au fait que ça peut être une forme d'épilepsie.
Et donc bien regarder son enfant quand même globalement et se dire tiens, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez l'enfant, il faut...
Oui, je pense qu'à partir du moment où il y a quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir,
il faut en parler à son médecin.
Voilà, on en parle à
absolument
son médecin.
Vous parlez de l'enfant à l'école justement, Philippe, vous vouliez intervenir ?
Oui, si je peux me permettre d'intervenir à propos des absences, c'est un sujet qui me touche de près parce que j'en ai fait moi-même quand j'étais adolescent.
Oui.
Effectivement, on disait, votre fils, il est dans la lune, aux parents. En fait, j'ai un souvenir tout à fait extraordinaire d'un cours de mathématiques où j'ai vu le professeur de mathématiques commencer à écrire en haut du tableau à gauche. Et quand je me suis réveillé, il était en bas du tableau à droite. Et tout ce qui était entre, tous les signes mathématiques, je ne les avais pas vus, quoi, tout simplement, et bien plein d'autres manifestations, mais pour dire que ça peut être vraiment très impressionnant après coup aussi, pour la personne qui vit sa crise.
Ouais, bien sûr. Et puis aussi l'intérêt peut-être d'ailleurs de bien le comprendre pour pouvoir accompagner le personnel enseignant. C'est une vraie question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant qui souffre d'épilepsie, si j'entends bien, il va pouvoir aller à l'école, docteur.
Bien sûr.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on accompagne l'entrée à l'école d'un enfant ? Parce qu'on a bien remarqué, on a bien entendu que les crises d'épilepsie font peur. Un enfant qui souffre d'épilepsie, qui va aller à l'école, probablement, il fera des crises d'épilepsie. Yanis, notre témoin aussi, je pense qu'il nous en reparlera tout à l'heure, mais il va faire des crises d'épilepsie. Comment on accompagne ça ?
Alors, ça dépend bien sûr du type d'épilepsie, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs types d'épilepsie. Effectivement, ce qui va faire peur dans le milieu scolaire sont surtout les conséquences potentielles de la crise, et on va avoir, si on n'explique pas bien les choses, peut-être une tendance de certaines équipes à mettre l'enfant un peu à l'écart, à ne pas lui autoriser certaines activités sportives, certaines sorties, on va en parler. Et puis le fait que les gens, ne sachant pas toujours ce qu'il faut faire, vont avoir peur. Donc pour essayer d'aborder les choses le plus sereinement possible, quand on diagnostique une épilepsie chez un enfant, on rédige ce qu'on appelle un PAI, ça veut dire un plan d'accueil individualisé, ça veut dire qu'on va prévenir l'école que l'enfant est épileptique. On se met en lien avec le médecin scolaire et on rédige donc ce plan où on va expliquer déjà quel type de crise l'enfant fait en décrivant pour que l'équipe à l'école puisse identifier la crise. On va détailler la conduite à tenir pour que les choses puissent être anticipées, que le personnel sache quoi faire s'il voit ces signes cliniques-là. Parfois, donc c'est ce qu'on avait dit, pas grand-chose à faire, mettre en sécurité, etc.
Bien sûr,
parfois, il y a un protocole d'urgence avec un traitement qu'on donne si la crise dure plus de 5 minutes. Donc, l'enfant a dans ce cas une trousse d'urgence qui va le suivre partout, dans les activités extrascolaires, à la cantine, et qui sera disponible à l'infirmerie, à l'école. Et ensuite, on informe aussi, et ça c'est un point très important, sur les activités finalement qu'on peut proposer et celles qui sont à surveiller, le but étant que l'enfant puisse avoir la scolarité et participer aux activités de la façon la plus normale possible, sans prendre de risques évidemment, parce qu'il y a certaines activités qui vont être contre-indiquées, mais sans se retrouver à l'écart parce qu'on a peur qu'ils chutent, etc. Il y a finalement très peu d'activités qu'on contre-indique. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants épileptiques... peut-être surtout il y a quelques années, à qui on interdisait la piscine, par exemple.
Ouais.
Nous, on va écrire que la natation est indiquée, qu'on doit prévenir l'équipe de secours parce que c'est quand même plus sympathique,
d'accord,
mais que sous surveillance, l'enfant aura le droit d'aller à la piscine à condition qu'il soit accompagné et surveillé. On détaille vraiment ces activités-là, le but étant que l'équipe puisse savoir ce à quoi on doit faire attention ou pas, et on laisse toujours aussi un contact du médecin référent pour que si à un moment donné on se pose une question parce qu'on va faire telle ou telle activité ou telle sortie et on sait pas trop si l'enfant a le droit d'y participer, on demande au médecin et au moins on a une réponse claire et on sait que oui, là on a le droit, oui, il faut peut-être prendre certaines précautions et on adapte les choses comme ça.
Bon, alors la crise survient, l'enseignant fait ce qu'il a à faire parce qu'il est accompagné, mais qu'est-ce qu'on fait des autres élèves autour de la classe? Comment on fait pour que l'intégration soit bien faite?
Alors, c'est une question difficile parce que ça va aussi dépendre du niveau scolaire où ça va arriver. On l'a dit, les manifestations, elles sont impressionnantes. Ça peut créer un mouvement de panique. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, de ne pas garder 30 élèves de 10 ans à côté de nous parce que ça peut ne pas nous aider dans la prise en charge. On peut avoir besoin d'en impliquer quelques-uns parce qu'on peut avoir besoin d'aide pour dégager l'espace, mettre le patient au sol, enlever les chaises, les tables, etc. Je crois que le plus important et ce qui peut se mettre en place si on a anticipé les choses, si on a rédiger le PAI, c'est que la personne qui va prendre en charge l'enfant puisse expliquer aux élèves que c'est pas grave, on sait ce que c'est, c'est une crise d'épilepsie, on va le prendre en charge, on sécurise, on fait sortir les autres élèves si on a la possibilité de faire sortir, on peut, si c'est des plus grands, faire participer un ou deux pour, toi tu regardes l'heure, on enlève la chaise, tu regardes bien ce qui se passe, comme ça on pourra expliquer aux parents ou aux secours si on a besoin des secours, on va chercher la trousse d'urgence si elle est à l'infirmerie, ça dépend d'où la crise se passe. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu en fonction de l'âge des élèves sur le fait de les faire participer un peu mais pas trop parce que ça peut être impressionnant et surtout les rassurer en disant
oui,
voilà, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il faut faire et on va le faire.
Ok, Yanis, dans un instant vous allez nous expliquer, vous avez déjà eu des crises en classe.
Exactement.
Et ça s'est globalement, sans aller dans le détail, mais ça s'est passé comment?
Globalement ça s'est bien passé, même si bon, souvent on voit que les profs ou même les élèves sont inquiets forcément. Au début ils savaient pas forcément comment réagir, mais bon, maintenant avec le temps ça devient automatique, c'est-à-dire que mon meilleur ami m'aide, les profs savent comment réagir et du coup après on évacue la classe, on me met une couverture, on attend que ça se calme, si je suis blessé on appelle les pompiers et après ça se règle assez rapidement.
Il y a un espèce de protocole qui s'est installé.
Exactement, bah, comme on l'a expliqué avant, un PAI. Exactement, du coup le PAI est vraiment utile, vraiment c'est important c'est vraiment important d'en réaliser un au début de chaque année, parce que ça peut évoluer, l'épilepsie peut évoluer également, voilà. Et c'est aussi très pratique le PAI, parce que ça peut donner des aides à l'élève. Par exemple, moi je bénéficie d'un tiers-temps, c'est-à-dire que pour des épreuves écrites, je peux bénéficier de plus de temps, parce que les médicaments, ça peut ralentir et tout ça. Et aussi, si je fais une crise d'épilepsie durant l'épreuve, après je peux toujours essayer de rattraper ma crise en quelque sorte, voilà.
Ouais, donc c'est une vraie importance en fait d'avoir un protocole mis en place.
Exactement.
Très bien. Est-ce que on disait une crise qui va survenir, est-ce qu'on peut la voir arriver? Vous disiez que c'est compliqué, mais est-ce qu'il y a quand même des signes qui permettent, je pense aux enseignants, je pense aux camarades, je pense aux gens qui connaissent, est-ce qu'il y a des moments où ils peuvent dire tiens attention là, ça risque d'arriver, peut-être qu'il faut que je mette en sécurité autour?
Alors ça va beaucoup dépendre du type de crise. On l'a dit, les crises généralisées, c'est quelque chose qui va survenir de manière brutale sans qu'on le sente venir. On peut par contre connaître certains facteurs favorisants. On sait qu'il y a des enfants qui vont faire des crises quand il y a de la fièvre, donc on va être plus vigilant quand il y a de la fièvre, on va prévenir l'école que les crises surviennent quand il y a de la fièvre. Et puis il y a tous les autres types de crises, les personnes qui peuvent faire, je prends l'exemple des myoclonies, des secousses comme ça. On sait que si on est dans une période où il y a beaucoup de secousses, peut-être qu'on a plus de risques de faire une crise généralisée, une grosse crise, et dans ce cas-là, on est plus vigilant. Et si on est dans le cas d'un patient qui fait des crises focales, c'est-à-dire qui implique d'abord une certaine région de son cerveau, si on connaît bien le type de crise qu'on l'a décrit, eh ben, on va voir apparaître les premiers signes qui dépendent de la zone, et on va pouvoir se dire, ah ben là, il y a une crise qui débute, et être attentif.
Et on peut éviter une crise?
Alors, non, on ne peut pas éviter une crise.
Une fois que c'est lancé, c'est lancé.
Quand la crise peut être plus ou moins courte, on peut la raccourcir si elle dure très longtemps et qu'on a besoin de mettre en place le protocole d'urgence, mais on ne peut rien faire. Je crois que c'est une croyance où on dit « je l'ai appelé, je lui ai pincé le nez ». Non, c'est souvent le hasard. Peut-être qu'il est revenu à lui au moment où on a appelé, mais on ne peut pas, de l'extérieur, on ne peut rien faire pour arrêter une crise qui commence.
Philippe, j'avais envie de vous poser une question. Vous, votre enfant a donc été à l'école.
Oui.
Il souffrait déjà d'épilepsie.
Oui, oui, oui.
Quand on est papa d'un jeune qui va à l'école, comment ça se passe? Est-ce qu'on est confiant? Comment on organise les choses?
Oh, ça a beaucoup changé. Tout ce que je viens d'entendre, c'est aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une société inclusive. Mmh. Il faut pas oublier que l'épilepsie, c'est à la fois une pathologie médicale, une maladie, et un handicap qui est généré par l'épilepsie. Donc c'est à cheval sur la maladie et le handicap. Et maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus attentif à intégrer un enfant qui a un handicap dans la classe qu'on ne l'était il y a 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans. Donc c'est vrai que la scolarité était difficile. À partir du moment où mon fils a commencé à faire des crises vraiment extrêmement importantes, fréquentes, l'école a plus pu suivre, était plus en capacité à ce moment-là de le prendre en charge. Donc il a été, on l'a placé dans un établissement spécialisé qui était très loin. On habite en Alsace, il était en Bretagne. Le docteur connaît tout l'Arquat. Voilà, et donc c'était un lieu qui était vraiment pour des enfants épileptiques et il y a fait une scolarité qui était adaptée à sa pathologie, à sa maladie. Oui, je trouve que les choses ont beaucoup, beaucoup évolué de ce point de vue-là. Maintenant, on accède beaucoup plus volontiers à un enfant qui a un handicap ou une maladie dans l'école que c'était le cas il y a 20 ou 25 ans.
Cela dit, les établissements spécialisés existent toujours, docteur?
Ah oui, bien sûr.
Et c'est quelque chose que vous conseillez ou pas?
Ça va dépendre de la situation de l'enfant. Si on parle plus spécifiquement de l'épilepsie de l'enfant, il y a vraiment des épilepsies qu'on va dire bénignes, c'est-à-dire des choses qui peuvent être liées à des phénomènes de maturation cérébrale qui vont des fois guérir avec le temps et qu'on sait très bien prendre en charge, qui vont bien répondre aux médicaments, auquel cas on essaye de rester dans une scolarité ordinaire le plus possible. Mmh. Après, bien sûr, il y a des épilepsies qui peuvent être plus sévères avec toutes les comorbidités dont on a parlé, les difficultés scolaires qui en font partie. Où là, le suivi régulier, il est aussi important pour ça, pour pouvoir dépister au plus tôt les difficultés que l'élève peut rencontrer et adapter la scolarité en fonction de ce qu'il y a besoin. Tant en fonction de la fréquence des crises et de la sévérité, on va dire, de l'épilepsie, que des répercussions cognitives, des difficultés qu'il peut y avoir à côté. Donc oui, c'est au cas par cas, en fonction de l'histoire de chacun.
Très bien. Bon, on a bien noté ce que disait Philippe il y a quelques instants, c'est vrai que la société est quand même plus inclusive aujourd'hui et qu'on met plus de choses en place pour faciliter une scolarité, on va dire normale, je mets bien des guillemets, aux enfants qui souffrent d'épilepsie. Je vous propose, dans un instant, on va aller un peu plus sur ce qu'il faut faire ou pas faire en cas de crise. On va écouter un deuxième morceau, pareil, que vous avez choisi avec votre sœur Yanis.
Oui, exactement.
De Sporto Cantes. Pareil, très très bon titre, on l'écoute maintenant, ça s'appelle Slits, c'est sur RCN et c'est dans Épices et tout.
Je suis dans la brousse.
RCN, et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie handicap Nord-Est.
Et jusqu'à 11h, nous parlons des crises d'épilepsie. Pourquoi une crise d'épilepsie, ça fait peur? Et puis, évidemment, on a bien abordé ce qu'était une crise pour bien la comprendre, pour bien comprendre que c'est un phénomène naturel.
Oui, on peut dire ça.
Est-ce que c'est contagieux? Docteur. Non, mais on se pose la question parce que c'est vrai qu'on entend parfois des gens qui disent « Oh là là, si mon enfant va à l'école avec un jeune qui souffre d'une crise d'épilepsie, est-ce qu'il va pas devenir épileptique ?»
C'est vrai qu'on l'entend encore, mais ce n'est absolument pas contagieux. On ne risque rien à aller à l'école avec un enfant épileptique. Ce n'est pas une maladie infectieuse.
C'est bien de le redire. Oui. C'est important c'est de vrai. Le redire. Je vais vous proposer, je vais faire quelques propositions. Vous pouvez tous répondre. Et vous me dites si oui ou non on doit faire ces choses-là quand survient une crise d'épilepsie. D'accord ? Est-ce qu'on doit donner du sucre ?
J'ai envie de dire surtout pas. Surtout, on ne met rien dans la bouche d'une personne inconsciente parce qu'il risque de s'étouffer. Donc non.
Alors, il y avait aussi la cuillère. Est-ce qu'on doit mettre une cuillère dans la bouche d'une personne?
Non, ni la cuillère, ni la pince à cornichon, ni ses doigts. Ça, c'est important. Alors, parce que cette peur d'avaler sa langue, on la retrouve encore beaucoup, beaucoup. La langue, elle est accrochée hein, dans le fond de la bouche. On ne peut pas l'avaler, donc on risque rien. On ne s'amuse surtout pas à mettre ses doigts dans la bouche d'une personne qui est en train de traverser une crise. Les muscles de la mâchoire, c'est super puissant. Ça peut vous couper le doigt. Et tous les autres objets, on peut soit créer une fausse route, soit lui casser une dent et le faire avaler sa dent. Donc non, il y a un risque d'étouffement alors que si on laisse la crise se dérouler, la langue va rester accrochée.
Alors, le sucre, gardez-en, mais pour les personnes diabétiques.
Exactement. Voilà.
Quelqu'un qui souffre d'une crise d'hypoglycémie pour avoir besoin de sucre. Doit-on appeler les secours systématiquement dès qu'on voit quelqu'un qui souffre d'une crise d'épilepsie? Peut-être vous, Yanis, question.
Alors, pas forcément. C'est-à-dire que si la personne est blessée, oui. Oui. Si maintenant c'est dans un commerce ou même si c'est au travail, là je comprends que en fait la personne est obligée d'appeler, c'est-à-dire que c'est dans son devoir, voilà. Mais sinon, si c'est dans la rue et que la personne n'est pas blessée, attendez que la personne reprenne conscience et demandez-lui est-ce que tu as besoin des secours ou pas, parce que si la personne n'est pas blessée, elle va passer 10 heures, 15 heures aux urgences. Elle va être souvent, enfin c'est plutôt mon vécu à moi personnel, mais mal pris en charge. Et au final, ça va être plus du négatif que du positif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va changer. Je vais être plus fatigué, je vais plus faire de crise d'épilepsie justement, je vais être plus stressé et tout, donc non.
Voilà. Est-ce qu'on doit tenir la tête d'une personne qui est en train de faire une crise?
Alors, tenir la tête, en fait, ça va dépendre de là où ça arrive. En principe, on doit laisser la crise se dérouler et faire le moins de choses possible. Si y a un risque qu'elle se cogne contre quelque chose, oui, on peut mettre un petit pull, quelque chose en dessous pour pas qu'il y ait de traumatisme, mais on en fait le moins possible. Et on essaye surtout pas d'empêcher les mouvements.
Ouais. Est-ce qu'on doit mettre la personne en PLS pendant la crise?
Alors, pendant la crise, c'est peut-être un peu difficile, mais peut-être à son réveil, oui, c'est peut-être... Ouais. Oui, c'est quand même bien de... la mettre en position latérale de sécurité.
Et puis, j'avais une dernière question que j'ai perdue, mais c'est pas grave. Ah si, est-ce qu'il est vrai qu'on ne doit rien faire pendant une crise?
Dans la plupart des cas, oui, parce qu'elle va s'arrêter rapidement. Et je crois qu'on a l'attitude adaptée si on sait reconnaître les signes de gravité. La crise qui dure plus de 5 minutes.
Alors, on va y venir justement. Est-ce que vous voulez bien qu'on reprenne ensemble ce qui doit être fait? Et ce qui ne doit surtout pas être fait pendant une crise d'épilepsie. Là, j'ai repris quelques éléments, vous l'avez compris, qu'on a entendu dans le micro-trottoir, et je voulais revérifier avec vous, mais peut-être que maintenant, on peut rebalayer ensemble ce qui doit absolument être fait et ce qui doit absolument ne pas être fait en cas de survenue d'une crise d'épilepsie quand on en est témoin.
Alors, je crois que la première chose, c'est de reconnaître qu'on est face à une crise d'épilepsie et de penser à regarder l'heure, parce que la durée de la crise, ça va être quelque chose qui doit nous indiquer si on doit s'inquiéter ou pas. Ensuite, on sécurise l'espace autour de la personne, on s'assure qu'il n'y ait pas d'objets dangereux. Voilà, on le met au sol s'il était installé sur une chaise ou quelque chose comme ça. On l'a dit, on desserre s'il y a un col, on enlève une paire de lunettes qui blesserait. Et on laisse la crise se dérouler. On n'entrave pas les mouvements, on ne fait rien, on regarde le temps passer finalement et... on attend que ça se passe. Les choses à ne pas faire, du coup, c'est mettre quelque chose dans la bouche. On ne va pas avaler sa langue, on ne met rien dans la bouche et reconnaître les signes de gravité. On va appeler les secours, évidemment, si la crise dure plus de 5 minutes. Si la personne fait des crises de façon répétée, surtout si elle ne reprend pas conscience entre les différentes crises. Et après, je crois qu'il faut bien distinguer deux situations, et Yanis l'a bien dit. Le patient épileptique connu qui fait une crise habituelle pour lequel on va pouvoir se permettre d'attendre qu'il reprenne connaissance. Ouais. Et puis après, il saura bien reprendre contact avec son neurologue, son neuropédiatre pour voir s'il y avait un facteur particulier, s'il faut rediscuter de la prise en charge ou si c'est complètement habituel. Et la personne qu'on ne connaît pas ou la personne pour qui c'est la première fois, ou en fait après il va y avoir quand même une enquête médicale sur le pourquoi du comment, et ça forcément ça nécessite une prise en charge.
Très bien, est-ce que vous avez des choses à ajouter, Yanis ou Philippe, peut-être sur la gestion des crises?
Alors moi non, personnellement non.
On est d'accord, Philippe de votre côté?
Oui, non, tout ce qui a été dit absolument, oui, j'approuve, bien sûr. Alors, mais encore une, juste
je vous en prie, Philippe.
J'en reviens toujours à l'idée que tout le monde ne sait pas que c'est une crise d'épilepsie. Ce que le docteur a dit, c'est tout à fait juste. Quand on, c'est une personne habituelle, quand on est près d'une personne, on sait ce qu'elle a ou ce qu'a dit Yanis aussi, pareil. Mais parfois, vous pouvez être témoin de quelque chose, vous ignorez ce que c'est. Hein. Vous voyez une personne qui commence à s'agiter sur le sol, etc. Voilà, et on ne connaît pas l'histoire de la personne. Parfois, on ne peut pas savoir grand-chose sur les épilepsies. Ouais. C'est vrai que c'est important de surtout d'écarter tous les objets qui pourraient blesser. Le plus important, c'est ça.
Ouais.
C'est pas tellement la personne, faire le moins possible, effectivement mettre un pull sous la tête, mais surtout écarter tous les objets autour qui pourraient blesser la personne ou sur lesquels la personne pourrait se blesser. Ça, c'est très, très important.
Et puis peut-être, est-ce que les personnes qui souffrent d'épilepsie n'ont pas une petite carte comme on peut avoir quand on est diabétique, par exemple, pour indiquer la conduite à tenir?
Exactement. Alors exactement, en fait, il y en a beaucoup qui ont des cartes qui, justement, précisent quelle forme d'épilepsie c'est, les médicaments qu'on prend, et aussi même parfois ce qu'il faut faire, voilà, et qu'il faut appeler aussi un numéro d'urgence ou un numéro d'un proche, exactement.
Yanis, Philippe, je vais vous poser une question, je vais être un peu brutal dans la façon de la poser, mais est-ce qu'on doit avoir peur de vous, Yanis, quand vous faites une crise, ou de votre enfant, Philippe, quand il fait une crise?
Alors, je comprends les personnes qui ont peur d'une crise d'épilepsie, je pense que c'est tout à fait normal, hein, c'est une réaction normale. C'est un peu l'inconnu, on va dire. Du coup, j'en veux pas maintenant. Est-ce qu'il faut en avoir peur sur le long terme? C'est-à-dire que si maintenant on a conscience de ce que c'est une crise d'épilepsie, je pense pas. C'est-à-dire que faut mieux apprendre, se renseigner, découvrir ce que c'est l'épilepsie, savoir comment la gérer, comme toute autre maladie d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Ouais.
Philippe?
Oui. Encore une fois, là, on est en train de parler de crises extrêmement spectaculaires, dont on parle là. Et comme a dit le docteur, il y a plein de crises qui sont pas spectaculaires. Mais celles qui sont très spectaculaires, et avec parfois des hurlements aussi qui sont poussés par la personne, ça peut être absolument terrifiant. Terrifiant même pour une personne avertie, même du personnel médical. Moi, j'ai vu même des infirmières être extrêmement impressionnées par certaines crises, et c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est parfaitement humain. Hein. Vous assistez à un phénomène qui semble irrationnel, alors qu'en fait, effectivement, bon, voilà, c'est un trouble du cerveau. Hein, c'est...
Irrationnel sur lequel on n'a aucune prise en plus, finalement, c'est ça. Hein, à part attendre, comme on disait, mettre en sécurité, noter l'heure, finalement, on est un peu démunis quelque part, docteur.
On est spectateur pendant une bonne partie de la crise, oui.
Alors comment est-ce qu'on pourrait faire aussi, peut-être pour que les gens aient moins peur de ces crises d'épilepsie, parce que c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, hein. Pourquoi est-ce qu'on en a peur, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait plus peur de ces crises d'épilepsie, pour qu'on apprenne à mieux gérer? Là, on est en train d'en parler à la radio, est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place, peut-être?
Oui, je crois que c'est l'information. Plus on est informé, plus on va pouvoir se projeter, anticiper sur ce qu'on ferait si ça arrivait, et moins on va avoir peur.
Yanis, donc vous... Oui, Philippe.
Je peux me permettre juste sur la peur, pourquoi la crise fait peur? Parce que aussi, il y a quelque chose qui remonte à la nuit des temps. On ne savait pas ce qu'était la crise d'épilepsie. Et on croyait que c'était une possession, que la personne était possédée par quelque chose. Et ça reste dans l'inconscient collectif, quelque chose de très très fort, chose contre quoi il faut absolument lutter. Hein. C'est pas une possession, faire une crise d'épilepsie, mais c'est perçu comme cela encore, même encore aujourd'hui. Et c'est ces peurs-là qu'on a en nous, quoi. Ces peurs de l'inconnu, comme l'a dit quelqu'un au début, comme peur de la mort, parce qu'on croit que la personne elle peut mourir sous vos yeux. Hein. Voilà, et ça c'est rigoureusement terrifiant. Mais c'est la peur, en fait, la peur, elle est bidirectionnelle. C'est la peur de la personne qui voit une autre personne faire une crise extrêmement spectaculaire, extrêmement inquiétante, quelque chose qui vous met très très mal à l'aise. Et puis la peur de la personne épileptique elle-même, ça Yannis pourra probablement le confirmer. C'est-à-dire que la peur parce qu'on ne sait pas quand une crise va se survenir quand une crise va se produire. Et la peur, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de cette maladie, qui est absolument terrible. Epilepsos, en grec, c'est prendre par surprise. On est pris par surprise. C'est-à-dire qu'on peut absolument pas le prévoir. On ne sait pas, ça peut arriver dans une seconde, dans une heure, dans trois jours, dans un mois, dans trois mois. On ne sait pas. On ne sait strictement rien.
Yanis, Philippe vient de vous poser une question. La peur, vous l'avez justement. La peur de la survenue d'une prochaine crise, c'est quelque chose avec laquelle vous vivez?
Oui. En fait, c'est surtout la peur de où je fais la crise d'épilepsie. C'est-à-dire faire une crise d'épilepsie la nuit, c'est terrifiant. On est perdu. Moi, je suis dans mon appartement, je suis seul, je suis perdu. Faire une crise d'épilepsie dans la rue, c'est pareil. C'est une peur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les personnes autour vont réagir. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Par contre, maintenant, faire une crise d'épilepsie en cours, là, j'aurais tendance à dire que j'ai moins peur parce que, comme dit, les personnes autour de moi sont informées, savent comment réagir, savent me mettre en PLS, connaissent les gestes de premier secours, pas comme tout le monde, visiblement. Et voilà.
Mais il existe quelque chose dont on n'a pas encore parlé, le docteur va nous en certainement nous en dire davantage, ce qu'on appelle un état de mal. Un état de mal épileptique, c'est soit une crise qui se prolonge au-delà de 15-20 minutes, qui est extrêmement long. Et là, je peux vous dire, quand une crise dure 20 minutes, ça arrive avec mon fils, que là, le temps passe, c'est comme si c'était des siècles. Et vous ne savez pas comment vous allez l'arrêter. C'est-à-dire que là, on est à un point où malgré des médicaments qu'on appelle des benzodiazépines, malgré ces médicaments qui normalement stoppent une crise, parfois ça ne la stoppe pas. Ça les stoppe pas. L'état de mal épileptique, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Par rapport à quoi le type de réaction est complètement différent de tout ce que l'on vient de parler jusqu'à présent. Peut-être le docteur peut nous en dire
davantage. Docteur Miguel, peut-être une réaction là-dessus.
Oui, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas évoqué. D'où l'intérêt de reconnaître les signes de gravité, de savoir alerter si la crise dure plus de 5 minutes, parce que c'est justement ça qui va nous faire peur et qui peut être difficile à équilibrer. C'est la crise qui se prolonge, l'état de mal, où là, on est dans une prise en charge médicale. Il faut qu'il y ait une intervention des secours pour réussir à faire céder la crise et on n'est plus dans les gestes de premier secours. C'est ces crises-là qui sont extrêmement prolongées, qui vont être responsables de lésions au niveau cérébral si on n'arrive pas à les arrêter et pas les crises les plus courtes qui sont les plus fréquentes.
Alors justement, c'est quoi les conséquences d'une crise d'épilepsie sur la santé du patient?
Alors, je crois que la première conséquence, ça va être les conséquences de la chute, s'il y en a une, enfin les conséquences traumatiques. Évidemment, on sait qu'il y a des répercussions à long terme si on fait plein de crises. On peut avoir des répercussions cognitives, mais c'est des choses qui sont sur le long terme. Une personne qui va présenter une crise sur quelques secondes, quelques minutes, finalement...
Il y a vraiment cette notion de durée qui est très importante.
Il y a cette notion de durée,
c'est-à-dire qu'au-delà de 5 minutes, vraiment, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter, à prévenir les secours, et là, c'est plus attendre, en fait.
On sait que si la crise atteint les 5 minutes, on a plus de chances de rentrer dans l'état de mal et d'avoir du mal à contrôler la crise, et c'est pour ça qu'on se donne ce timing-là 5 minutes.
Donc vraiment, si je devais résumer en un mot, la première des choses à faire quand on voit quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, c'est vraiment noter l'heure du début de la crise.
Je pense que c'est important parce que c'est pas un réflexe qu'on a si on n'en a jamais parlé. Et il y a cette distorsion du temps qui est évidente. Et alors que oui, ça guide beaucoup la prise en charge, ce timing des 5 minutes.
Je vais revenir sur les crises plus généralement. Yanis, quelles sont les conséquences des crises ou de l'épilepsie d'ailleurs, peut-être sur votre vie en général? Vous avez suivi des études?
Oui.
Vous avez eu un métier?
Tout à fait.
Donc vous avez globalement une vie normale?
Oui, tout à fait. C'est plus les conséquences sur les activités sportives, je pense. Je pense que c'est plus... on n'a pas forcément le... Enfin, c'est plutôt déconseillé de faire des activités, par exemple la boxe. Je déconseille fortement de faire de la boxe.
Alors, on a un médecin, il y a un mois, qui nous dit « Oh, on peut !» Mais
non,
bien protégé.
Je déconseille. Alors, je fais de la boxe personnellement, mais je déconseille, voilà.
Pareil pour... Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Quoi,
oui, exactement. Alors, pareil, exactement pareil pour... tout ce qui peut être activité nautique, c'est-à-dire que j'ai fait de la voile étant jeune, et là depuis mon épilepsie je n'en fais plus du tout, parce que ce qui est dangereux aussi dans l'eau, c'est que la personne peut pencher, même si elle a un gilet de sauvetage, elle peut pencher vers l'avant et du coup après se noyer, c'est-à-dire que le temps de revenir et de récupérer la personne, il peut déjà être trop tard, donc quand même demander à son médecin avant de vouloir pratiquer un sport, c'est important, voilà. Mais sinon... non, je pense que...
Sur la conduite, vous conduisez par exemple?
Non, voilà, exactement pareil, je peux pas conduire, C'est-à-dire que j'avais commencé à passer mon code, on m'a dit d'arrêter tout de suite parce qu'il est interdit de conduire. Forcément, quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie sur l'autoroute, je pense pas que c'est très sécurisé. Et oui, voilà.
Ouais. Sur la vie, les activités de loisirs, culturelles, tout ça, tout va bien. Vous avez une
tout
vie.
Va bien. Oui, tout va bien. Je pense peut-être quelqu'un qui est photosensible, c'est-à-dire quelqu'un qui réagit à la lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie à cause de la lumière. Là, peut-être que c'est déconseillé d'aller en boîte de nuit, tout ça. Peut-être que c'est déconseillé. Moi, heureusement, c'est pas mon cas, mais je me prive quand même peut-être de sortir trop tard, c'est-à-dire que je vais pas rentrer à 4h du matin, parce que la fatigue, le stress aussi, ça provoque des crises d'épilepsie, et vaut mieux éviter d'en faire.
Il y a des choses qui provoquent ou qui sont des facteurs aggravants, docteur Miguel, de la crise d'épilepsie?
Il y a des facteurs déclenchants lorsqu'on est épileptique. Alors, il y en a certains qui sont assez généraux. Yannis l'a bien dit, la fatigue, la privation de sommeil, la consommation d'alcool, de certaines drogues, de certains médicaments. Il y a des facteurs qui vont dépendre du type d'épilepsie. Il a parlé de la stimulation lumineuse. Il y a des personnes qui vont faire plus de crises quand ils sont plus stressés, plus angoissés, des choses comme ça. Ce sont effectivement, chez une personne épileptique, des facteurs déclenchants potentiels. La fièvre, les infections, surtout chez l'enfant, on en a parlé, que le patient va apprendre à connaître et à gérer en fonction de son type d'épilepsie dans le quotidien, quoi.
Philippe, vous qui êtes papa donc, d'un enfant qui est plus enfant maintenant, on l'a bien compris, hein, d'un homme qui souffre d'épilepsie, la vie sociale, ça s'est passé comment? Vous le disiez tout à l'heure, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises, les choses ont évolué. Vous avez vu cette évolution. Vous, comment s'est passé votre vie de papa aidant, accompagnant?
Oh, la vie sociale, c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, c'est le repli sur soi. Je ne sais pas si Yannis, lui, a vécu cela, mais en tout cas de manière extrêmement fréquente, la personne épileptique qui a peur que la crise survienne s'isole très souvent du reste de la société. C'est-à-dire qu'on vit dans une espèce de bulle, on est un peu en marge des autres parce qu'on a peur, voilà, tout simplement, parce qu'on a une crainte de ne pas savoir ce qui va se passer. Vous savez, une crise d'épilepsie, on ne l'a pas encore définie de l'intérieur. Mais de l'intérieur, une personne qui la vit, c'est une perte de conscience de son environnement. C'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux de savoir que tout d'un coup, voilà, on n'est plus maître de son corps. On n'a plus la maîtrise de son corps. Et ce ne plus avoir la maîtrise de son corps, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Pour la personne épileptique, et très souvent, surtout chez les jeunes, hein, on parle des enfants, des adolescents, ils vont vraiment avoir tendance à s'isoler, alors maintenant, encore une fois, on l'a dit, la société est plus inclusive aussi qu'elle n'était il y a 20 ou 25 ans. C'est peut-être moins mal perçu, et puis on a peut-être un peu moins de crainte d'être jugé par ses camarades, par ses pairs, hein, que c'était le cas il y a 20 ou 25 ans. Mais à l'époque, mon fils a commencé à faire des crises extrêmement violentes quand il avait entre 10 et 15 ans. C'est la période, le docteur confirmera, où les crises apparaissent très souvent chez l'adolescent. Là, il a vraiment eu tendance beaucoup à s'isoler.
Philippe, lui s'est isolé, mais vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Est-ce que l'isolement vient aussi pour les parents dans ces cas-là? Est-ce que on s'isole de sa vie sociale avec ses amis, sa famille, parce qu'on a peur de la crise qu'aura son enfant?
Oui, vous avez tout à fait raison. Un autre aspect de l'épilepsie, c'est que ça a un impact énorme sur la fratrie. Et très souvent, quand il y a une prise en charge psychologique qui est nécessaire, indispensable, hein, de certains enfants épileptiques, il y a aussi une nécessité de prise en charge psychologique de la fratrie, des frères, des sœurs, parce que l'impact sur eux est absolument colossal quand c'est une épilepsie très grave, très sévère, qui en est un handicap très lourd. Et les parents aussi s'isolent. C'est vrai ce que vous dites, la question est tout à fait judicieuse. Hein. Tout le monde se met un peu en marge, voilà, parce que l'enfant... C'est aussi ce que ressentent beaucoup de parents avec un enfant malade, pas seulement une épilepsie, hein, ça peut être n'importe quel forme de maladie chronique chez l'enfant est grave. Les parents, effectivement, sont un peu centrés, auto-centrés sur la personne, sur l'enfant malade, parfois au détriment aussi d'ailleurs des frères et sœurs de l'enfant malade, parce qu'on lui attache plus d'attention, et c'est souvent au détriment aussi. L'impact sur les frères et sœurs est absolument colossal.
On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans cette émission. Merci Philippe d'être intervenu. Merci Yannis. Merci. Également, on va devoir mettre un terme à cette émission. Docteur Miguel, si je devais dire un dernier mot pour finir cette émission, n'ayons pas peur, regardons l'heure. et protégeons les gens, tout simplement. Oui, faisons attention à ce qui est dans leur environnement.
Je crois que c'est une bonne conclusion.
Merci à vous, docteur Miguel. Quelques ressources, peut-être, Aurore ou Céline, pour aiguiller nos auditeurs qui se posent encore quelques questions, rapidement.
Oui, alors on va avoir des fiches pratiques, différentes brochures sur différents sites, notamment le site de l'AEGE, de l'association avec le Grand Test Épilepsie, ou de la Ligue française contre les psys également, qui vont présenter un petit peu c'est quoi une crise, comment réagir.
On vous les conseille. Très très bon document à voir. Il y a aussi quelques vidéos très sympas.
Et des vidéos, tout à fait.
On vous les mettra dans le lien de cette émission sur notre chaîne YouTube. Allez les voir, vous verrez, vous apprendrez des tas de choses. Merci à toutes et tous pour cette émission. Merci Yanis encore une fois. Merci Philippe. Merci docteur Miguel. Je rappelle que vous êtes docteur à l'EHS à Flavigny, au centre de santé et au COSE et à l'hôpital d'Épinal.
Exactement.
Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve dans un mois pour une prochaine émission sur les épilepsies. Bonne journée à tous.